L'Europe de la défense, c'est un peu trop tard même déjà, par rapport à cette course qui recommence. C'est une deuxième guerre froide qui se met en place, je pense. Donc oui, c'est essentiel, ouais. Surtout qu'on a des entreprises qui sont assez spécialisées là-dedans en Europe et surtout en France.
Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver dans le calme feutré de notre bon vieux studio 611. Après cette folie de vendredi, ce tumulte lillois, cette déloque de tous les superlatifs, mais que reste-t-il au Festival de Cannes ? Rien. J'ai encore en mémoire les sirènes de police hurlant pour ouvrir la route au convoi Sérimania transportant Pierre Courade. Se demander pourquoi des vannes Mercedes noires traversaient leur ville en mode go fast, la plus grosse star du festival étant Karine Viard. C'est vrai qu'on se demandait tous ce qui pouvait justifier un tel déploiement de moyens. Et puis on a compris, Pierre Courade, notre rédacteur en chef adjoint, avait réussi à faire croire qu'il était James Potter, le père d'Harry Potter. Grisé par cet accueil VIP, il a ensuite totalement dérapé à l'antenne, comme vous avez pu l'entendre, oubliant son métier de journaliste pour se lancer dans l'humour sans prévenir personne, ni moi, ni Cyril, prenant en otage le public de la chambre de commerce et de l'industrie pour tester son futur seul en scène.
Manon, c'est totalement désinhibé qu'elle lâchera cet après-midi dans la boutique mère de la Grand Place. Je voudrais une boîte de 12 gaufres au rhum, s'il vous plaît, mais sans gaufres.
Bref, on s'est bien amusé, ce seul en scène promet vraiment. On s'est bien amusé, Pierre a trouvé sa voie, mais il était temps qu'on rentre. D'ailleurs, vu les annonces en cascade du week-end, je vous l'annonce solennellement, je ne bouge plus. Bah oui, je m'absente un jour, je reviens, le patron des programmes n'est plus là. Le patron de l'info se tire sur BFM, j'ai l'impression qu'elle a porté la poisse à interne de Deloc. Alors maintenant, on reste là, bien au chaud dans nos studios, et le premier qui veut partir à la concurrence, Quentin, tu te rassois tout de suite, aura affaire à moi. Fini de rire les comiques. D'ailleurs maintenant, vous commencerez l'émission au garde à vous. Surtout celle d'aujourd'hui, puisqu'on va zoomer sur une expression, un concept dont on entend beaucoup parler depuis que le parapluie militaire américain s'est refermé, l'Europe de la défense. C'est un sacré serpent de mer, puisqu'elle est dans les tuyaux depuis 1952, mais cette fois-ci, vu la tournure géopolitique des événements, l'Amérique de Trump qui se désolidarise de l'Europe, voire qui fait du pied à Poutine, le vieux rêve pourrait devenir réalité. Mais comment et à quelle échéance ? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour David Cadier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. David, vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Vous enseignez également au Collège d'Europe à Bruges et à Sciences Po Paris. Vous allez tout nous expliquer aujourd'hui de cette Europe de la défense qui pourrait enfin s'accélérer en réponse notamment à la menace russe. Juste le temps de vous présenter mes plus fidèles alliés à moi. Manon, Mariani, Quentin, lui, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Ah, on est alliés.
Manon, on est alliés. Après, on peut voir que les alliances changent.
Parfois.
On s'en rend compte. Manon, chaque après-midi, vous nous aidez à approfondir notre sujet du jour. Par exemple, vendredi, vous aviez très envie d'approfondir le sujet Benjamin Voisin, notre invité, mais un certain sens du devoir vous en a empêché.
C'est pas parce qu'on trouve une personne jolie qu'on a envie de la pécho. Hein.
Excusez-moi,
on est en 2025.
C'est vrai. Oui, enfin, moi-même.
Vous avez insisté sur le fait qu'il était joli.
Oui, c'est vrai.
Et on l'a tous dit. C'est autour de cette
table.
On l'a reconnu.
Moi-même.
Oui, voilà.
Aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce que vous approfondissiez l'Europe de la défense, Manon.
Oui, je vais vous présenter un journaliste français spécialisé dans les questions de défense. Il vient même de sortir un livre plus que jamais d'actualité. Son titre, Sommes-nous prêts pour la guerre ?
Ah, ça, c'est, voilà qui est fun. Voilà qui va certainement nous relancer sur le rire.
C'est le thème. Hein.
Exactement. Face à vous, David, même s'il s'est remis de ses tribulations gastriques du week-end, on vous l'a quand même mis de l'autre côté de la table, au cas où. En effet, deux jours de repos et beaucoup de smecta ont été nécessaires à la reconstruction de sa flore intestinale après le séisme qu'a constitué pour lui l'épisode lillois dit des moules au maroilles. On aura d'ailleurs une pensée émue pour tout le service entretien du Novotel Grand Place qui a dû passer derrière. Quentin, vous êtes de retour.
Écoutez,
tout ça sont des informations données par Pierre Courade.
Mais il se trompe rarement. Mais non, mais j'ai trop mangé. Lui d'ailleurs a continué à Bruxelles ce week-end.
Si vous
avez vu ce matin, il est tout gonflé.
Hein, il est tout gonflé. C'est vrai qu'il a pris,
il a pris 2-3 kilos dans le week-end.
Écoutez, on commentera avec lui tout à l'heure quand il sera avec nous autour de cette table. Quentin, vous êtes de retour dans votre zone de confort, les rues parisiennes. Vous avez demandé aux passants ce que leur inspirait cette Europe de la défense.
Voilà, je suis venu discuter avec vous de la défense. Est-ce qu'elle doit être européenne ? Ça vous fait peur, peut-être ? Vos réactions avant 16h30 dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, Gérald Darnaud, l'auteur qui m'aide pour préparer le Zoom Zoom Test, ayant confondu l'Europe de la défense avec l'Europe de la défense. Il m'a fourni un document de 17 pages très renseigné, mais donc totalement hors sujet. C'est pourquoi dans le quiz, On partira plutôt aujourd'hui à la rencontre de ceux qui rendent cette Europe de la défense nécessaire, les dictateurs fous. Juste avant 17h, sa folie, elle en a fait un métier. Marine Leonardi nous rejoindra. Mais d'abord, David Cadier, cette Europe de la défense, elle est revenue au cœur du débat public depuis quelques semaines, depuis que les États-Unis de Trump ont pris leur distance et ont quelque part laissé l'Europe face à elle-même. Vous qui étudiez ça, l'Europe a-t-elle réellement besoin d'une défense à l'échelle du continent? En gros, est-ce qu'on se pose la bonne question avec cette Europe de la défense?
Oui, car nous n'avons plus le choix. Confrontés à l'Est, à la Russie de Vladimir Poutine, et au-delà de l'Atlantique, face au parapluie américain, il n'est pas encore tout à fait fermé, mais on est peur qu'il soit un petit peu troué. Et ces trous pourraient justement inciter la Russie à des actions plus agressives à l'égard de l'Europe, et donc il faut que les Européens, à leurs échelles, avec leurs moyens, fassent plus pour leur défense et leur sécurité.
Et c'est réaliste ou c'est pas un peu tard pour se mettre à cette Europe de la défense? Est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer bien plus tôt pour être opérationnel rapidement?
On aurait absolument dû commencer bien plus tôt, il y a environ une bonne cinquantaine d'années au minimum.
Oui.
Nous n'avons plus le choix encore une fois, donc il est temps. C'est réaliste sur le long terme, mais ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et beaucoup de décisions difficiles.
Face à vous, David, si tous les Français pensaient comme lui, l'Europe de la défense serait déjà condamnée à rester lettre morte. Eh oh, c'est quoi encore ces conneries? Chacun chez soi et Dieu pour tous, on va quand même pas leur filer notre bombe atomique au Fridolin. Tel fut l'apport de Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef gaulliste, à la conférence de rédaction sur le thème du jour. Cyril, bonjour.
Bonjour.
Même si la souveraineté militaire vous tient visiblement très à cœur, vous allez tout de même nous raconter cette Europe de la défense, d'où ça sort?
C'est après la Seconde Guerre mondiale que l'idée d'une Europe de la défense commence à émerger. Vu l'ambiance entre les États-Unis et l'URSS, l'Europe se dit qu'en cas de nouveau conflit militaire, elle ferait bien de trouver un moyen de se défendre toute seule. C'est ce qui va présider à la signature du traité de Bruxelles le 17 mars 1948. La Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni s'engagent à une défense mutuelle. C'est déjà un premier pas. Quatre ans plus tard, ça va beaucoup plus loin et l'Europe de la défense semble se concrétiser. Place à la Communauté Européenne de Défense, la CED, à l'initiative française. Concrètement, cette CED vise à créer une armée européenne avec un uniforme unique, avec du matériel commun et un commandement intégré, tout ça sous parapluie américain. Alors oui, les Américains sont dans la partie, mais l'armée, elle, est bien aux couleurs de l'Europe. Le 27 mai 1952, six pays signent cette avancée majeure. La République fédérale d'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et bien sûr la France. Normalement, je le disais, c'est un projet qui vient de chez nous.
Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu.
Impossible n'est pas français. Et c'est comme ça que deux ans plus tard, le 30 août 1954, la Communauté Européenne de Défense est rejetée par l'Assemblée Nationale par 319 voix contre 264 pour. Le lendemain, le quotidien L'Humanité se réjouit de ce vote avec ce titre « Victoire du peuple de France et de la paix ». Les communistes étaient effectivement contre ce projet, tout comme le général de Gaulle. Ces deux camps, pourtant rivaux politiques, estimaient que cette CED était une atteinte inacceptable à la souveraineté de la France. 71 ans plus tard, ce sujet est donc encore sur la table. Où en serait-on si cette communauté européenne de défense avait été adoptée? Est-ce que le général de Gaulle a merdé sévère? Qu'est-ce que ça changerait d'avoir une armée européenne?
Attention, ce que vous dites du général, Cyril.
Eh bien écoutez, mon cher Mathieu, c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. David Cadier, je vais rebondir sur l'excellente question que posait Cyril à l'instant. Est-ce qu'au fond, le vote contre cette CED en 52, ça n'a pas été le tournant. Aujourd'hui, on aurait une défense européenne si ça avait été voté?
Alors, il y a eu plusieurs rendez-vous manqués. Effectivement, l'échec de la CED est un tournant assez majeur, mais il y en a eu d'autres après, puisque la France a eu la position particulière d'être à la fois le fossoyeur en 54 de cette idée, mais aussi le principal promoteur dans les décennies qui ont suivi. Le plan Fouché en 62, d'autres initiatives par la suite. Et là, c'est plutôt les autres pays qui renaclaient. L'échec de la CED a trait au contexte politique particulier de cette époque, mais également au contexte géopolitique plus large qui a été mentionné, de mise en place de la guerre froide, de révision des plans européens qui, au début, après la Seconde Guerre mondiale, les Européens pensaient pouvoir assurer leur sécurité eux-mêmes. C'est parce qu'ils pensaient qu'en fait, la principale menace serait l'Allemagne. Et lorsqu'ils ont réalisé qu'en fait, la menace viendrait de l'URSS, ils ont compris qu'ils ne pourraient pas faire contrepoids par eux-mêmes. Ils se sont donc tournés vers les États-Unis, qui au départ ne souhaitaient pas rester comme les principales garants. Le traité de l'Atlantique Nord en 49, est au début un plan Marshall de la sécurité européenne.
Destiné à s'évaporer par la suite.
Absolument. Pour les Américains, il s'agissait d'aider les Européens à se mettre sur pied, mais ne pas venir à gérer les affaires de sécurité européenne. Ce qui a changé, en fait, c'est la guerre de Corée en 1950.
On entend pardon, beaucoup parler de cette défense européenne en ce moment dans l'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est encore à l'idée d'avoir une armée commune, une armée européenne avec sous drapeau européen où chacun garde son armée et juste coopère?
Non, on n'en est pas encore là aujourd'hui. Et en fait, à l'origine du projet, il y avait la question du rapport aux États-Unis. Et à l'origine des questionnements aujourd'hui, il y a la question des États-Unis. Non, ce qui va se passer à plus court terme, mais ce qui reste un moyen terme, ça serait une plus grande coopération, une plus grande intégration, une plus grande interopérabilité des armées nationales européennes. En fait, une sorte d'OTAN sans les États-Unis. C'est ce qu'on peut imaginer dans quelques années, mais encore une fois, ça ne sera pas pour demain.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
L'union militaire fait-elle forcément la force? Zoom cet après-midi sur l'Europe de la défense avec le chercheur spécialiste de la sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, David Cadier. Cette fameuse Europe de la défense dont on parle cet après-midi, dont on parle beaucoup dans l'actualité, est-ce qu'elle a avancé ne serait-ce que d'un millimètre là, ces dernières semaines?
Je le pense, oui. Alors, c'est vrai que c'est quand même un serpent de mer depuis plusieurs années. Je pense qu'il y a une dose de scepticisme assez... salvatrice à avoir, mais il y a en fait un changement de mentalité, et ça commence par ça. C'est-à-dire que déjà, en fait, dès le début de l'invasion à grande échelle de la Russie, de l'Ukraine par la Russie en 2022, l'Union européenne a un peu changé de logiciel. L'Union européenne s'était empêchée, en fait, la géopolitique au sein de ses frontières au départ, pas faire de la géopolitique en dehors de ses frontières. À partir du moment où, après 2022, l'Union européenne propose l'adhésion à un pays en guerre, l'Ukraine, où elle entraîne des soldats ukrainiens, où elle finance des livraisons d'armes à l'Ukraine, elle s'affirme comme un acteur géopolitique, ce qu'elle n'était pas avant. Ses compétences avaient le trait au commerce et à d'autres aspects. Depuis, en plus, la prise de pouvoir et les signaux envoyés par l'administration Trump, il y a encore une fois un changement de mentalité, à la fois au niveau des institutions européennes qui font des propositions, mais aussi au niveau des États membres. L'Allemagne a quand même sacrifié deux vaches sacrées sur la question des investissements militaires et de l'endettement.
Est-ce que tous les pays européens sont prêts à faire des efforts? Je voyais que l'Allemagne n'était pas très emballée, par exemple, l'Espagne a augmenté son budget militaire.
Alors, c'est vrai que les différentiels en termes de budget militaire, en train de part du PIB consacré à la défense, sont très variables en Europe. Vous parlez de l'Espagne, l'Italie sont plutôt à 1-3, 1-5%. La Pologne est entre 4 et 5%. Ah oui. Donc, vraiment, ça varie d'un pays à l'autre. Mais ce n'est pas simplement une question d'investissement. Au départ, les obstacles à la défense européenne étaient aussi beaucoup dans les têtes. Beaucoup de pays européens renaclaient dès qu'ils entendaient en fait le mot de défense européenne parce qu'ils considéraient qu'on allait faire de l'ombre à l'OTAN, alors qu'ils considéraient que la garantie américaine était la principale variable de leur équation de sécurité.
Quentin. La Commission européenne prévoit un budget de 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. À quoi ça va servir, cet argent?
Alors, il faut quand même apporter une nuance. Il n'apporte pas 800 milliards d'euros sur la table. C'est effectivement ce qui a été adopté au Conseil la semaine dernière sous proposition de la Commission. Sur ces 800 milliards, il y a 150 milliards que la Commission propose d'offrir aux États membres en prêt, c'est-à-dire que la Commission va aider les États membres à lever des fonds sur les marchés. Et les 650 milliards restants, c'est un peu plus vague, c'est une estimation de la Commission européenne qui le dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser les États membres à dépasser plus les limites d'endettement de 3%. Ils peuvent ajouter jusqu'à 1,5% pour dépenser plus en matière de défense. Donc en fait, ils refilent quand même un petit peu la patate chaude aux États membres qui, eux, devront dépenser cet argent. Ils ne mettent pas l'argent sur la table. Mais ça servira à quoi? On pourra en parler, mais il y a tout un ensemble de compléments capacitaires à faire au niveau européen, certains types d'armement, développer des structures de commandement et ainsi de suite.
Et il y a une question qui se pose quand même, au-delà des moyens financiers, même techniques, c'est la cohésion même des États européens. On a quand même la Hongrie qui est là au milieu, qui est plus, me semble-t-il, quand même plus proche de Poutine, éventuellement parfois sur certains points, que de nous. Comment on peut créer une Europe de la défense avec des acteurs si différents?
C'est effectivement pour ça que quelque chose a changé. C'est-à-dire que normalement, l'Europe de la défense est réglée par ce qu'on appelle l'intergouvernemental, c'est-à-dire des relations entre les États. Et là, chaque voix compte, chaque État a un pouvoir de veto. Pour contourner ce type de problème, on passe de plus en plus par ce qu'on appelle la majorité qualifiée, où là, on peut contourner effectivement le blocage en ce moment de la Hongrie.
La semaine dernière, dans Libé, l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, disait que les Européens avaient jusqu'à 2030 pour se mettre en position de combat. Ça veut dire quoi, se mettre en position de combat? Il y a urgence à ce point-là?
Alors, il y a pas mal d'annonces par des chefs des services de renseignement européens ou des ministres de la Défense européens qui suggère que les Européens devraient être en mesure de se battre contre la Russie d'ici à 5 ou 6 ans. Ce qui peut paraître un petit peu alarmiste. Ce qui me paraissait personnellement peut-être moins crédible avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, maintenant il y a plus de questions qui se posent. Se mettre en ordre de combat, ça veut tout simplement dire être capable de faire la guerre sans les Américains, ce que les Européens pour l'instant ne sont pas vraiment en mesure de faire à grande échelle.
Hier, j'ai lu dans la Tribune du Dimanche que l'Estonie se préparait au pire. C'est quoi la stratégie des États baltes face à la menace russe? Et surtout, nous, est-ce qu'on va forcément réagir si l'un d'entre eux est attaqué? On est, quelque part, légalement tenu par les traités de réagir aussi?
On est tenu par les traités, par l'article 5 de l'OTAN, par l'article 42.7 du traité européen. Les États baltes, c'est vraiment David contre Goliath. Ce sont des petits États avec une topographie qui ne sert pas vraiment de défense, contrairement à la Suisse, qui donc misent sur les alliances, sur les garanties de sécurité américaines bilatérales, otaniennes, européennes. Donc, ils cherchent à maximiser en fait les assurances et à espérer pour le meilleur.
Une bonne guerre, ça peut aussi être une chance pour le business, me disait Quentin, lui, hors antenne, faisant une fois de plus honneur à son surnom dans l'équipe, Adolfo Ramirez.
Qui va vite être remplacé.
C'est vrai, Quentin.
Par Pierre.
Par Pierre quoi?
C'est vrai
il vous balance tout.
C'est vrai qu'il est encore plus fort que
il est pire que
il
moi.
Il est plus perfide
il
que
est
vous.
Pire.
C'est le pire d'entre nous. Quentin, dites-nous les vrais gens. Comment voit-il cette Europe de la défense? Est-ce qu'il la voit comme une solution ou comme un problème de plus? Vous êtes allé leur poser la question.
Oui, ce week-end, la douceur de ce début de printemps et d'un jour de congé donne quand même à la rue un côté paisible, loin de tout ça, loin de ce qu'on se dit là. Ma première rencontre, c'est cette maman qui sort d'un magasin. Son fils est sur sa trottinette colorée à trois roues. Je l'aborde, mais si je l'aborde, c'est pas par hasard. Écoutez.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez me décrire comment vous êtes habillée?
Je suis habillée en pantalon kaki, en imperméable militaire et en casquette kaki. C'est un peu cliché.
Camouflage.
Je m'en suis rendu compte en sortant de chez moi. J'étais un peu gênée.
Je vous fais lire un mot.
Ouais. L'Europe de la défense. Bah, j'y suis, hein. Moi, je suis prête.
Visiblement.
Ouais, je suis prête. Mon fils aussi, presque, un peu.
Il a quel âge, votre fils, là?
Il a 4 ans.
Est-ce que ça vous inquiète, ce qui se passe?
Ah ouais, bien sûr, énormément, ouais.
Je dirais au-delà de la blague, etc.
Ouais, bien sûr, évidemment. Et je suis pas de nature très inquiète. Là, je vous parle, il fait beau, et ça se trouve, demain, c'est autrement, quoi.
Sarah, 22 ans, porte un blouson, une casquette en jean. Elle est chanteuse, danseuse, comédienne. Quel regard pose-t-elle sur...
L'Europe de la défense. Je comprends pas grand-chose. C'est pesant. Moi, j'ai juste l'impression qu'on n'a plus notre mot à dire et que tout se fait sans qu'on n'y voit rien passer, quoi. On apprend des trucs et on n'est plus du tout... On n'a plus du tout notre voix, quoi.
Je lui demande si, comme lors de la guerre en Irak en 2003, elle irait manifester contre les conflits. Elle me répond oui, sans hésiter. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte de notre époque pour elle?
Qu'il y a des hommes cis blancs qui font un peu ce qu'ils veulent et qu'ils font joujou avec leur bite. C'est une guerre d'égo. Que ça pue et que on va tous crever.
Julien a la trentaine. Oui.
Bébé.
Julien, lui, il a la trentaine. Faut-il réarmer l'Europe? C'est la question que je lui pose après ce mois de mars, disons.
Assez anxiogène. Et en fait, on essaie d'alimenter un peu la peur des gens. Et je pense pas typiquement que Poutine, par exemple, veuille nous bombarder ou nous envahir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de menaces. Il y en a. Mais de là à se, pour répondre à votre question, de là à devoir se réarmer, je ne pense pas.
Ouais, alors déni ou optimisme, pour Julien, il ne faut pas céder à l'angoisse médiatique. Didier, lui, retraité, il lit derrière ses vers progressifs...
Oui, l'Europe de la défense. Oh ben écoutez, je crois que la dynamique est lancée.
Je lui demande si une stratégie pacifiste pourrait vraiment être une solution.
Non, mais c'est pacifiste, oui. Alors comme disait Mitterrand... Les fusées sont à l'est et les pacifistes sont à l'ouest. Il ne faut pas continuer comme ça. Bah, parce qu'il ne faut pas être, naïf.
J'ai encore une question pour lui avant de le laisser partir. Vous êtes né en quelle année?
1949. Très bientôt.
Donc vous avez traversé la vie en France,
oui,
sans conflit.
Et je sais l'inquiétude dans les années 60-70 vis-à-vis du surarmement. Je sais très bien qu'il y avait des chars russes à 200 km de Strasbourg.
Vous pensez qu'on est loin, là, des 200 km de chars?
Ah non, ils sont beaucoup plus loin, parce que l'Allemagne de l'Est n'existe plus.
Oui, j'ai compris ça, oui, merci.
Non, mais le risque, il existe. Enfin, bon, la France n'est pas directement menacée, mais la solidarité européenne est telle que la France doit se sentir concernée.
Romain, lui, il a la quarantaine, une veste en daim. Il s'apprête à s'engouffrer dans une bouche de métro quand je l'arrête pour lui faire lire le sujet du jour de Zoom Zoom Zen.
L'Europe de la défense. Bah, quoi, ça me fait penser à l'actualité, évidemment. Depuis le temps que J'espère que ça se mette en place et il faut qu'il y ait des guerres pour que ça se bouge, quoi. Donc je pense que c'est une bonne chose, en effet. C'est un peu trop tard même déjà par rapport à cette course qui recommence. C'est une deuxième guerre froide qui se met en place, je pense. Donc oui, c'est essentiel, ouais. Surtout qu'on a des entreprises qui sont assez spécialisées là-dedans en Europe et surtout en France.
Mais alors pourquoi est-ce essentiel, si important, cette armée européenne ?
Parce qu'il vaut mieux anticiper que la subir. Enfin, c'est les erreurs du passé, il faut que ça nous serve de leçon. Donc il faut réviser ses cours d'histoire, demander peut-être aux historiens de nous rappeler aussi qu'on s'était mal préparé pour les précédentes guerres et que, évidemment, en espérant qu'on n'arrive jamais à une guerre contre la Russie ou contre d'autres pays. Voilà, mais il faut se préparer.
Il vous a arrêté net dans la rue, ce thème d'émission, dans une journée plutôt ensoleillée. Il nous pousse à nous interroger. Faut-il réarmer le vieux continent ou continuer de croire que nos alliés d'hier le resteront ? Qu'en est-il du pacifisme qui nous animait la guerre ? Après tout, qui veut la paix ? Prépare la guerre.
Merci Quentin. David Cadier, on est tous sous le choc depuis le discours de J.D. Vance en Europe. C'est un peu là qu'il y a eu un vrai tournant. On s'est dit les Américains nous laissent tomber. Les arguments américains, on a tendance à dire Trump fait un peu n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y a pas une part de il ne faut pas écouter un peu ce qu'ils nous disent aussi, au sens où on a trop longtemps compté sur eux ?
Ça fait en fait des années, des décennies que les différentes administrations américaines demandent, souhaitent que les Européens fassent davantage pour leur propre défense.
Ils le demandaient juste poliment jusque-là, en fait.
Voilà, en mettant des manières diplomatiques un peu différentes de Donald Trump. Mais enfin, J.D. Vance, le discours aussi, surtout, il signale que les États-Unis sont prêts presque à faire de l'ingérence politique, à soutenir certains partis. Donc, il y a à la fois cette inquiétude stratégique en provenant des États-Unis, mais presque aussi des questionnements politiques.
Quentin.
Julien, ce trentenaire nous dit qu'il y a une volonté de nous faire peur. Je ne pense pas que Poutine veuille nous bombarder. Est-ce que ça, c'est du déni ou une prise de recul face à une forme de narration médiatique en ce moment ?
Alors, être en capacité de se défendre, ce n'est pas simplement parce qu'il y aurait un risque que la Russie nous bombarde demain. C'est pouvoir empêcher la guerre en dissuadant n'importe quel agresseur. Et donc, c'est pas simplement une question d'anticiper des bombardements. Mais il y a des actions agressives de la Russie qui prennent d'autres formes, informationnelles, guerre hybride, et ainsi de suite.
Actuellement, quelles sont les capacités militaires de l'Union européenne ?
Alors, ce qui est paradoxal, c'est que si on compte le nombre de soldats sous les drapeaux, l'Union européenne n'a pas à rougir. Elle a plus de soldats sous les drapeaux si on additionne tous les États membres que la Russie, mais aussi que les États-Unis.
Ah oui.
C'est.
Mais on a moins d'armes ou de.
Alors il y a, on a moins d'équipement, on n'a pas de structure de commandement propre. Les structures de commandement pour les opérations auxquelles se prêtent les Européens sont otaniennes et donc dirigées par les États-Unis. On manque de beaucoup de choses, par exemple en termes de ravitaillement, de transport de troupes, de renseignement. Donc en termes, on manque de beaucoup de capacités, on manque beaucoup aussi de ce qu'on appelle d'interopérabilité. C'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir beaucoup de soldats. Il faut qu'ils puissent travailler ensemble. Il faut aussi qu'ils puissent avoir les mêmes équipements.
Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui.
Un des problèmes vraiment structurel en matière de défense européenne, c'est que chaque État membre ayant des champions nationaux parmi leur industrie de défense vont privilégier des modèles de frégates, d'avions qui correspondent aux besoins ou à la demande de leur marché et aux propositions de leur entreprise. Et ce qui fait qu'on se retrouve en Europe avec un plus grand nombre de types de frégates que les Américains, par exemple.
Mais il a raison, Romain, quand il dit que c'est une spécialité française aussi, l'armement, la défense, on pense à des grandes entreprises, des grands noms. On doit s'en servir, on doit être plus souverain.
Absolument. La France compte parmi les États qui, je crois que la France est le deuxième exportateur d'armement dans le monde. Donc il y a un savoir-faire français en matière d'industrie. Et être souverain, en fait, ça veut aussi dire pouvoir utiliser les armements qu'on a ou même qu'on achète de la manière qu'on souhaite. Les inquiétudes en ce moment, si vraiment on a l'administration Trump qui fait tourner les Américains comme presque un ennemi de l'Europe, c'est qu'ils puissent, par exemple, empêcher la mise à jour des données sur les avions F-35 américains. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait être fait. Donc en fait, la souveraineté, effectivement, c'est avoir le contrôle, pouvoir définir ses objectifs et faire ses propres choix.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Si la question de l'Europe de la défense se repose aujourd'hui, c'est parce que le monde semble être à la mode, semble être au dictateur. Alors, afin de ne pas se laisser surprendre, prenons les devants et plongeons-nous pour ce quiz dans la psychologie des pires dictateurs de l'histoire. Manon Quentin, vous avez sur le sujet une connaissance empirique certaine, puisque vous travaillez avec Cyril Lacarrière depuis 3 ans. Mais est-ce que ça sera suffisant? Jouons au Zoom Zoom Test. À la découverte aujourd'hui des lubies les plus folles des dictateurs, comme vendredi à Lille, quand Cyril a exigé que le Novotel le transfère dans une chambre avec baignoire, sans quoi il refusait de faire l'émission. Et on commence notre taupe du
il
monde.
Il n'a pas eu gain de cause. Hein.
Non, ça n'a pas marché. Il n'a pas beaucoup de.
Il a quand même fait l'émission.
C'est un tout petit dictateur. C'est un dictateur nain. Et on commence notre tour du monde du n'importe quoi dans ce pays qui ne déçoit jamais de ce côté-là. C'est bien sûr la Corée du Nord. Si d'aventure, Quentin, votre goût du micro-trottoir vous entraîne un jour à Pyongyang, soyez vigilant à ne pas vous assoupir durant une parade militaire de Kim Jong-un. En effet, le grand soleil du 21e siècle, comme doivent l'appeler les petits écoliers nord-coréens, est très à cheval sur le protocole. Ainsi, d'après vous, qu'est-il arrivé au malheureux vice-maréchal Yang Yong-chol, qui a commis l'acte de trahison, je ne garantis pas l'accent, qui a commis l'acte de trahison de piquer du nez durant un défilé? Il a été condamné à se suicider en avalant 100 tubes de laxatif, l'équivalent de 3 moules au maroilles de la houblonnière. Il a été exécuté avec un missile sol-air. Et où il a été obligé de participer à un karaoké à la télévision d'État et de chanter l'hymne des Village People bourré à l'alcool de riz.
Mais
oh, c'est allé très vite du côté de Quentin.
Ouais. On l'a dit en même temps, mais...
Non, je crois que c'est Quentin qui a gagné, Manon. N'essayez pas de tricher. Bonne réponse de Quentin, lui.
Vraiment en même temps.
Oh là. Ah, il y a une version.
Effet spécial France Inter. Et oui, en matière de peine capitale, Kim Jong-un n'est jamais en manque d'inspiration. C'est bien au missile sol-air que l'ex-ministre de la Défense a été exécuté. Il y a même eu un petit pot avec des hauts dignitaires. C'était très sympa. Direction maintenant la Libye de Muammar Kadhafi. Oui, désolé, on n'a qu'une seule musique dans la base. Muammar était, on s'en souvient, un facétieux personnage aussi bougon en public que rieur dans le privé, capable de débourser plus d'1 million d'euros pour se payer un concert de Beyoncé pour son anniversaire en 2009. Parmi ses nombreuses qualités, l'histoire retiendra son obsession des femmes. Une preuve tangible a même été trouvée dans les décombres de son palais après sa chute en 2011. Dans sa table de nuit, à côté d'un rouleau de sopalin et d'un portrait à la gouache représentant Cyril Lacarrière nu sur un chameau, qu'a-t-on retrouvé d'autre d'assez insolite? Un album de Céline Dion avec cette dédicace, René ne doit jamais savoir, bisous.
Oui.
Un album d'Intérieur Nuit avec cette dédicace, pour votre prochain anniversaire, je suis moins cher que Beyoncé. Ou un album de photos de Condoleezza Rice, l'ancienne secrétaire d'État américaine sous George Bush. Oh oui, Manon, c'est incroyable. Vous aviez la bonne réponse,
enfin,
moi, Marc.
Intérieur nu, ça aurait pu être possible.
C'est vrai que ça aurait été possible.
On est beaucoup moins cher.
Et à mon avis, tu l'as vraiment envoyé le CD. Oui. Moi, Marc Kadhafi avait un faible pour Condoleezza Rice, qu'il surnommait d'ailleurs Lisa. Lors de sa visite officielle en Libye, il lui avait même préparé un petit vidéomontage en son honneur, comme dirait Manon à ce type qui avait osé marcher dans la rue à côté d'elle la semaine dernière pour lui dire qu'il l'aimait beaucoup. Creepy. Mais attention, retour en Europe, car un tour du monde des dictateurs serait incomplet si on ne rendait pas hommage à Nicolas Ceausescu. C'est vrai qu'il est décrié, mais il a fait quand même beaucoup de choses pour la Roumanie, me disait Antenne Cyril. Sans souscrire à cette analyse de l'histoire, je tiens effectivement à vous livrer cette information étonnante. On en parlait l'autre jour dans Zoom Zoom Zen. Ceausescu est le véritable inventeur de la fast fashion. D'après vous, pourquoi? Parce qu'il imposait aux Roumains de changer d'habit tous les jours? Parce qu'il a essayé de faire de la Roumanie la plaque tournante du textile en Europe? Ou parce que chaque jour, après avoir porté ses vêtements, il les brûlait?
C'est...
Ah oui, c'est, mais il était fou.
Oui, je pense.
Oui, c'est.
Il était fou, mais le reste était fou aussi. Enfin, réponse C, bonne réponse de Manon. Ceausescu était un pionnier de la fast fashion. Pas parano qu'à moitié, le dictateur roumain avait une hantise qu'on tente de l'empoisonner avec des substances sur ses vêtements. C'est pourquoi il a commencé à porter un costume différent tous les jours. Puis très vite, il a pris la décision radicale de faire brûler ses vêtements après les avoir portés. Parfois, quand on voit la veste Valentino Rossi de Quentin, on regrette que Quentin soit pas un peu plus paranoïaque. Enfin.
J'ai visité son palais à Ceausescu.
Ah, t'es intéressant. Du tourisme en Roumanie.
Il y a des pièces qui sont pas encore découvertes, comme les pyramides un peu.
On me souviendrait que c'est pas intéressant, alors que moi je trouve ça intéressant. Cyril, merci de ne pas dire n'importe quoi.
C'est fou.
Enfin, plutôt que de terminer bêtement sur une anecdote concernant Vladimir Poutine, ce qui serait trop attendu, je préfère vous désarçonner une fois de plus en vous interrogeant sur celui qui s'est longtemps décrit comme l'ami de Poutine et qui sera l'objet d'ailleurs de la deuxième partie de notre émission tout à l'heure, Gérard Depardieu. Gérard, dont certains feignent de s'étonner qu'il puisse être un odieux personnage, alors que pourtant les signes avant-coureurs ne manquaient pas. Car Gérard a certes prêté son talent au plus grand réalisateur, mais pas seulement. Ainsi, il n'a peut-être jamais été aussi que dans cette pub russe de 2015, dont le slogan était « Proud to be a Russian », à savoir « Fier d'être russe ». À votre avis, que se passait-il dans cette pub?
Oula.
Depardieu était ivre. Depardieu vantait les mérites d'une montre moche. Depardieu butait un cerf. ou les trois à la
fois.
Les trois, évidemment, c'était pour la marque.
On sait qu'il était ivre.
Ah oui, bon, là, vraiment, regardez la vidéo.
Il était tout rouge.
C'était pour la marque, et puis surtout pour tourner, pour dire ce qu'il y a dans cette pub, c'était pour la marque de montres Custos, des montres chic et sport, mais surtout sport. Écoutez.
Pour fumer un cerf, il faut toujours être à l'heure.
Mais...
grâce à ma Custos, j'étais à l'heure. Et c'était son heure. Avec Custos, je suis toujours à l'heure.
Eh oui.
C'était en français.
Oui, il y avait la version française, évidemment. Mais ça a du sens, et surtout ne contestez pas les questions du quiz.
Victoire magistrale
de Manon Mariani. Et ça ne m'étonne pas sur la géopolitique, elle est beaucoup plus forte que vous.
Ah oui, bien sûr.
Les montres Custos sont horribles, je suppose.
Ah oui, je vous invite à aller regarder.
Il y en a acheté 5.
Certainement pas. L'Union fait la force, mais quid de l'Union européenne ? On zoome aujourd'hui sur le retour de la notion d'Europe de la défense avec le chercheur en sécurité européenne de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire, David Cadier. Est-ce que vraiment, David, les Européens aujourd'hui ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes, ou bien est-ce qu'on ne va pas un peu trop vite en besogne en imaginant Trump déjà s'éloignant de l'Europe et puis soumis à Poutine ? Est-ce que ce n'est pas une partie de poker qui se joue, qui nous dépasse peut-être un peu finalement ?
Je pense effectivement que c'est pour l'instant une partie de poker, c'est-à-dire que le narratif d'un renversement d'alliance qui voudrait que soudainement les États-Unis sont alliés de la Russie contre les Européens, je n'y crois pas. Ce qu'il se passe plutôt, c'est que les États-Unis en fait cherchent à adopter une position de médiateur entre les Ukrainiens et la Russie. Ça se voit parce que ça veut dire qu'ils retirent d'une certaine façon le soutien qu'ils apportaient jusque-là aux Ukrainiens et que les Européens continuent à apporter aux Ukrainiens.
C'est quand même un petit changement de paradigme parce qu'il y a quand même un agresseur et un agressé dans l'histoire.
Ah non, mais c'est un changement de pied assez fondamental. C'est-à-dire qu'en essayant d'apparaître neutre, ils finissent parfois par adopter des éléments de langage qui sont ceux de Moscou.
Mais est-ce qu'on peut toujours faire confiance aux Américains aujourd'hui ?
Je pense que c'est la question qui anime la plupart des ministères de la Défense et des Affaires étrangères des pays, des États européens. Et pour l'instant, il faut aussi s'en tenir aux actions. C'est-à-dire qu'on sait quand même que ce président américain a une tendance à prendre certaines latitudes avec la vérité et aller dans l'hyperbole rhétorique. Donc si on s'en tient aux actions, pour l'instant, il n'y a pas eu véritablement d'action qui a mené à un retrait des forces américaines en Europe, par exemple. Il n'y a pas eu une modification des déploiements américains. Il y a eu une annonce quand même que peut-être ils pourraient retirer 20% des forces qui avaient été déployées, c'est-à-dire revenir au niveau d'avant 2022, d'avant l'invasion à grande échelle, encore une fois, pour essayer de se positionner comme médiateur.
Hier, dans la tribune dimanche, et ça va dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, le vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné, disait que l'Europe commence à parler le langage de la force et de la stratégie. C'est la fin de la naïveté.
Oui, les relations internationales se déroulent à l'ombre de la guerre, comme disait Raymond Aron. Sauf que nous, sous le parapluie américain, nous n'en étions pas vraiment conscients. Et là, maintenant, les Européens, en fait, effectivement, découvrent un monde beaucoup plus brutal, un monde de rapport de force, où il faut, effectivement, pour pouvoir peser et se protéger, avoir une masse critique en matière de défense et de puissance militaire.
Je lisais ce week-end depuis l'allocution d'Emmanuel Macron, au début du mois, dans laquelle il disait que la patrie avait besoin de nous, que 7500 Français ont candidaté pour intégrer la réserve militaire. C'est 5 fois plus que sur l'ensemble de l'année dernière en 2024. Qu'est-ce que ça dit de l'engagement des Français dans la défense de leur pays ?
Je pense que ça illustre cette prise de conscience dont nous parlions tout à l'heure. Ça illustre le fait que le discours sur la menace résonne malgré tout et que certains Français sont prêts effectivement à devenir réservistes en soutien à leurs armées. C'est le cas en France, mais c'est encore plus le cas également dans d'autres pays européens, a fortiori les pays européens qui sont limitrophes de la Russie. On parlait tout à l'heure de l'Estonie, mais on peut parler de la Finlande, où il y avait dès avant 2022 un service militaire, encore dans certains pays européens, comme en Grèce, où on peut parler de la Pologne, où il y a des unités de défense nationale, c'est-à-dire au-delà même de l'OTAN, de l'UE et ainsi de suite, les Polonais se préparent au niveau des civils à une situation de conflit.
Et dernière question sur cette force de dissuasion nucléaire qu'on a, nous, en France, et qu'on pourrait partager avec le reste de l'Europe. Ça, certains sont pour, je crois que François Hollande est contre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que spécialiste ? Est-ce que ça serait une bonne chose qu'on partage ?
Alors, il faut voir comment ça serait fait. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites sur le sujet qui ne sont pas totalement exactes. Il ne s'agirait pas de mettre à disposition de tous les Européens le bouton rouge qui permet d'envoyer des armes nucléaires. Ça serait peut-être plutôt un modèle comme ce qui est fait par les États-Unis qui déploient certaines armes nucléaires dans des bases aériennes de certains pays européens. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. Donc, ça serait plutôt sur ce point. La réflexion est pour l'instant engagée au niveau des autorités françaises qui expliquent qu'ils sont prêts à en parler avec les autres Européens, mais on ne sait pas encore.
Il n'y a pas encore eu de dialogue formel.
Quelle forme ça prendrait, non ?
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure maintenant de découvrir la personne à suivre sur ce sujet.
Oui, je vous présente Jean-Dominique Mercher. Il a 65 ans, il est français et il est journaliste spécialiste des questions de défense depuis plus de 40 ans. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble, il a débuté sa carrière comme chroniqueur militaire au Monde diplomatique. Belle entrée en matière. Ensuite, il a intégré la rédaction de Libération où il est resté pendant plus de 20 ans. Il a enchaîné avec Marianne et il travaille aujourd'hui à l'Opinion. Il s'est aussi fait un nom avec son blog intitulé Secret Défense qu'il a lancé en 2007, l'un des premiers du genre à offrir des analyses détaillées et approfondies sur les enjeux militaires contemporains, les relations internationales et les évolutions des forces armées. Jean-Dominique Mercher est un observateur critique des politiques de défense, en particulier l'évolution de la position de la France dans le monde. Il plaide pour une Europe de la défense plus forte, plus autonome, capable de faire face aux nouvelles menaces. Il a sorti un livre à ce sujet intitulé « Défense européenne, la grande illusion ». Il parle notamment de la dépendance de l'Europe vis-à-vis de l'OTAN, on l'a évoqué, et notamment des États-Unis. Pour lui, c'est une illusion de croire qu'une défense européenne autonome pourrait se substituer à l'Alliance Atlantique sans une réelle volonté politique et surtout sans une coordination solide entre les États membres. Selon lui, la défense européenne est encore largement fragmentée et l'Union européenne reste bien éloignée de la mise en place d'une armée commune réellement opérationnelle. L'année dernière, il a publié un livre sobrement intitulé « Sommes-nous prêts pour la guerre ?» Je vous lis la quatrième de couverture. « Nous qui n'avons plus connu de guerre sur notre territoire depuis 1945, à l'abri de notre dissuasion nucléaire, de nos alliances, de notre armée professionnelle, nous dont l'armée n'a pas gagné une guerre depuis 1918, nous qui avons fait le choix de supprimer le service militaire, serions-nous prêts à affronter une nouvelle guerre ? Une question qu'on ne se serait pas posée il y a encore une dizaine d'années, mais qui devient de plus en plus d'actualité aujourd'hui.
Merci Manon. David Cadier, il faut effectivement un soutien politique, une volonté politique pour créer cette Europe de la défense, ne serait-ce qu'au niveau des peuples de l'Europe. Est-ce que c'est pas trop tard, au sens où on a trop de méconnaissance de ce domaine, de cette défense, en tant que citoyen de chaque pays européen pour avancer?
Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on consulte les études d'opinion qui sont faites par l'Union européenne, qui s'appelle Eurobaromètre, depuis plusieurs années, la question du soutien à la politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne est parmi les politiques européennes qui suscitent le plus d'entrain des populations européennes. Mais est-ce que c'est parce qu'à l'époque, justement, la politique de sécurité et de défense de l'UE, c'était plutôt des missions de la paix, en fait. C'était pas encore une grosse machine de guerre telle qu'on est en train d'en parler aujourd'hui.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Il y a 6 mois à peine, il intégrait l'équipe de Zoom Zoom Zen comme rédacteur en chef adjoint, son CV mentionnant en effet journalisme et enquête, et à aucun moment humour et musical. Tout est allé très vite pour celui qu'au Théâtre des Deux Ânes, son parrain dans le métier, Bernard Mabille, surnomme déjà le petit prince de la galéjade, dont la prestation comique vendredi devant le public lillois a obligé Marine Lénardier à prendre une décision douloureuse mais nécessaire, virer son copain GC et lui annoncer que désormais pour sa tournée des Zéniths, c'est Pierre Courade qui fera la première partie. Bonjour Pierre.
Un peu comme ça d'ailleurs en fait, je suis un peu ta vedette américaine, Marine.
Il y est déjà. En attendant les Zéniths, on compte sur vous Pierre pour nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur l'Europe de la Défense en une minute chrono.
Et l'Europe de la Défense avance, c'est ce que nous a expliqué notre invité, le chercheur en sécurité européenne David Cadier. C'est pourtant un vieux serpent de mer qui date du début des années 50 et qui ne s'est jamais véritablement concrétisé. D'abord parce que les parlementaires français ont rejeté le projet, ensuite parce que la plupart des pays européens se sont réfugiés sous le parapluie américain, délaissant au passage tout effort militaire. Résultat, quand la Russie nous menace et que dans le même temps les États-Unis nous négligent, Marine Léonardie ajouterait comme mon mari, eh bien on se retrouve un peu seul. Nous n'avons plus le choix, nous a dit notre invité. Il faut mettre en place cette Europe de la défense. L'objectif est réaliste, nous a-t-il dit, mais il faudra beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup de décisions difficiles. Dans un premier temps, notre invité envisage plus de coopération entre les armées nationales au niveau du commandement et de l'équipement, une sorte d'OTAN, mais sans les États-Unis. La Commission européenne mise sur 800 milliards d'euros pour nous réarmer. La France mise sur son industrie. Et le temps presse. Notre invité reprend les services de renseignement qui estiment que nous avons entre 5 et 6 ans pour être prêts, pour se mettre en ordre de combat. Et voilà comment on passe du petit carnet au comique troupier.
Effectivement, Pierre, est-ce que vous le prenez en première partie ?
Mais là, c'est parfait. Oh, c'est pas beaucoup plus drôle que j'essaie. Ouais, beaucoup plus drôle. Paris, hein.
Non,
c'est plus drôle que j'essaie quand même.
Écoutez la chronique de vendredi. Oh,
méchant.
Pauvre j'essaie qu'on embrasse évidemment. On le sait peu, mais vous adorez la guerre. Le sujet vous a donc interpellé.
Non, mais lire que l'Europe ne fait plus peur à personne, alors que l'on a Cyril Hanouna. Vous n'avez de respect pour rien. Est-ce que je cherche juste un prétexte pour parler du fait que Cyril Hanouna, il sort avec la fille à Brigitte ? Peut-être. Personne ne lit Paris Match ici ? Bon, et en même temps, Paris Match ne s'intéresse pas à nous. Le seul article que j'ai trouvé dans Paris Match de 2019 et s'intitule « Mathieu Noël, la locomotive d'Europe 1 ». Laisse tomber. Véridique, alors que maintenant, c'est plutôt la Fiat Punto de France Inter. Pardon, David Cadier, on sent que vous êtes perdu et que vous dites « Putain, mais est-ce qu'ils sont tous teubés ici ? J'aurais été mieux sur « Touche pas à mon poste ». Je vous rassure, David, on n'est pas aussi toxique. Cyril s'est vachement amélioré. Maintenant, on a le droit d'aller au toilette l'après-midi. Donc pour revenir à Cyril Hanouna, il ne faut pas les confondre, hein, l'un est dictateur autocentré, l'autre animé TPMP. Moi je suis excitée comme une puce. Vous n'êtes pas sans savoir que mon mari Alix vient du Touquet, où vit la fille de Brigitte.
Hein. Ah oui.
On y passe tous les étés. On avait déjà Coé, maintenant Hanouna. Enfin, pardon, mais c'est le bingo des enfants et la Côte d'Opale, quoi. Il manque plus que Yann Moix et Pardieu et Poutine, il va débarquer, il sera là. Mais je me sens bien ici. Il y a des villes comme ça en France, elles sont pas prêtes si c'est la guerre. La Baule, le Cap Ferré, le Touquet. Bon, ça va être chaud de leur expliquer que la doudoune sans manche couleur framboise dans les tranchées, c'est non. On s'est bien foutu de la gueule des Kevin pendant 20 ans, mais c'est pas Enguerrand et Paul-Antoine qui vont casser du boche. Hein. C'est vrai, non mais le Touquet, laisse tomber, que des blondes peroxydées de 103 ans. Tu leur claques la bise, ça rejette de l'agent orange, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Il y en a, elles sont en décomposition, tu les fous sur le champ de bataille, tu sais pas si c'est mort ou vivant. Brigitte Macron, là-bas, il l'appelle la jeunette. Hein. C'est quand même la seule ville de France, véridique, où la boutique Vicomte Arthur fait plus de chiffre d'affaires que Lidl. 20% des ventes réalisées grâce à Pierre Courade l'année dernière. À nous, quand on va au Touquet avec Alix, on est obligé de relever le col de la chemise, sinon ils pensent qu'on vote à gauche. Hein. Et ça, je peux te dire que ça te met en danger de mort. Après, je leur détaille votre fiche de paye. Mathieu Noël, ils sont rassurés. Ils sont là « Ah, mais vous êtes en embuscade chez LFI, en fait !» On fait de la géopolitique comme on peut, David Cadier. Je suis désolée, ça vous aura pas échappé que j'ai pas le physique à divertir des soldats. Hein, je pense que n'importe quel poilu préfère risquer sa vie que tringler une meuf qui ressemble à un cintre. Et mon mari prend une semaine de RTT quand il monte une étagère Ikea. Donc bon, pour manier une arme, il faut savoir se servir de ses doigts. Et croyez-moi sur parole, on n'y est pas du tout. Idem autour de la table, je pense, David, que vous n'avez jamais vu Quentin courir. Il y a un départ de feu à France Inter, il se laisse mourir. Ils ont failli installer le studio d'enregistrement rez-de-chaussée juste pour lui. Mais bon, ils ont trouvé ça bien quand même que le petit Cyril fasse un peu de sport. Quand même. J'ai vu qu'apparemment l'État lançait un fonds pour financer le réarmement de la France à partir de 500 euros. Ils mettent un montant minimum. Non mais où ? C'est un fonds ou une cagnotte litchi pour acheter un vélo cargo à Anso là ? Grosse michto l'État. Moi mon mec il met 500 balles là-dedans mais je deviens dingue. Alors que mon cadeau de Noël c'était un steamer, je pète un pont. Je suis là et ça sert à rien d'investir dans la défense, tu seras mort avant qu'il y ait la guerre, je t'explique. On va recevoir un manuel de survie aussi avant cet été. Merci d'en envoyer un France Inter. La qualité de la bouffe à la cantine a encore baissé. On ne sera pas dépaysés, nous, si on va sur le front. Je vous laisse. Moi, j'ai cours de Muay Thai. Rien à voir avec la guerre. Je suis juste une femme qui se balade de temps en temps en jupe dans Paris.
Merci, Marine Leonardi. La Fiat Punto de France Inter. Vous remercie. J'aurais bien parlé volontiers, comme je le fais chaque fois, de votre tournée. Mais bizarrement, je vais oublier aujourd'hui un peu. Mais je vais oublier. Je vais dire un peu comme vous, quand vous nous avez oublié à la télé vendredi. Mais vous avez oublié que vous faites une chronique chaque semaine dans Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Elle était chez Quotidien.
Moi qui regarde Quotidien tous les soirs.
Comme un string, j'allais pas faire.
J'allais mater le replay, je le regarderai pas.
À la semaine prochaine, Marine. Et bientôt dans quelques zéniths. Ouais. Merci, David Cadier. Grâce à vous, on sait enfin ce qu'est l'Europe de la défense et où elle va. Je rappelle que vous êtes chercheur sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Merci encore pour vos lumières cet après-midi.
Zoom Zoom Zen.